Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne, une émission qui sera principalement consacrée au 60e anniversaire du traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963. Entre le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Cet accord de coopération est aujourd'hui le symbole de la réconciliation et le début de la coopération franco-allemande. Nous vous proposons donc aujourd'hui de faire le point sur l'état des relations franco-allemandes avec Brigitte Klinkert, ancienne ministre déléguée à l'insertion, actuellement députée du Haut-Rhin et coprésidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Bonjour Madame Klinkert.
Bonjour monsieur, bonjour à tous.
Alors dans chacun de vos mandats, on a pu constater votre engagement en faveur de l'amitié franco-allemande, notamment aussi avec le bilinguisme pour la coopération transfrontalière. On se souvient tous de votre action pour le transfert des patients au cours de la première crise du Covid. Actuellement donc députée, vous êtes élu coprésident de l'Assemblée parlementaire franco-allemande avec Nils Schmidt, un député allemand du SPD, donc pas totalement de votre couleur politique. Et c'est donc à ce titre que nous avons souhaité vous recevoir dans cette émission pour avoir votre regard, votre analyse sur l'état de santé du couple franco-allemand dans une Europe, on va le dire, quand même ébranlée par une guerre et par cette guerre en Ukraine. Alors j'aurais une première question. Qu'est-ce que représente pour vous, Madame Klinkert, le traité de l'Élysée ? Quel regard vous portez sur ces 60 années de coopération franco-allemande ?
Comme vous l'avez dit, le traité de l'Élysée, c'est, j'ai envie de dire, la base de ce pilier de l'amitié franco-allemande. C'est la réconciliation, quelques années après la guerre. Et il me semble important aujourd'hui de poursuivre et de développer le travail qui a été entamé à l'occasion du traité de l'Élysée. C'est tout le sens de l'événement qui a été organisé à Paris à l'occasion de l'anniversaire du traité de l'Élysée. Et c'est tout le sens aussi de l'engagement qui est le mien avec Nils Schmidt à la tête du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Ces 60 années n'ont certainement pas été, une trajectoire rectiligne dans l'amitié franco-allemande, mais ici en Alsace, on sait plus qu'ailleurs combien les épreuves que nous avons pu traverser ensemble font aussi la valeur de cette amitié et de cette coopération. On a l'impression que tout a été facile durant ces 60 années. J'imagine que pour Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, ça n'était pas simple non plus, en 1963, d'arriver à la signature de ce traité. Aujourd'hui aussi, il peut y avoir des hauts et des bas dans notre vie, tout simplement, que ce soit en amour, en amitié, et c'est le cas du couple franco-allemand. Ce qui est très intéressant avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande que je co-préside avec Nils Schmidt, c'est que déjà c'est la seule assemblée binationale au monde, 50 députés allemands et 50 députés français qui se réunissent ensemble. C'est assez récent.
Comment on pourrait différencier ça d'un groupe d'amitié ? Parce que avant, on avait des groupes d'amitié. Là, on a vraiment une assemblée parlementaire.
C'est effectivement une bonne question parce que l'assemblée parlementaire franco-allemande est institutionnalisée. Et les missions qui sont les nôtres, c'est d'une part d'essayer de nous accorder sur un certain nombre de textes qu'ensuite, côté allemand, les Allemands le porteraient au Bundestag et nous, Français, députés français, les portons à l'Assemblée nationale. Donc essayer de s'accorder sur des textes communs et d'autre part, veiller également à l'application du traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé il y a 4 ans par Mme Merkel et Emmanuel Macron.
Que diriez-vous, qu'est-ce qui nous reste de cette ambition de départ qui était le traité d'Élysée, qui était quand même... Est-ce qu'aujourd'hui, malgré ces difficultés, est-ce qu'on est encore dans une ambition, la réconciliation, là, maintenant ? Quel est vraiment le degré de cette ambition aujourd'hui ?
Alors, on l'a vu encore il y a quelques jours, lorsque le président Macron et le chancelier Scholz ont accueilli le président ukrainien à Paris. Et l'amitié franco-allemande va beaucoup plus loin qu'une simple amitié. La France et l'Allemagne sont clairement le pilier de l'Europe. Et j'ai envie de dire, quand l'amitié franco-allemande et la coopération franco-allemande se passent bien, l'Europe se porte bien. Ce ne sont là pas que des mots, c'est vraiment la réalité. On a vu aussi tout ce qui a pu être fait dans le cadre de la crise du Covid. Je dis régulièrement, parce que je le crois très fort, que c'est l'amitié franco-allemande et la coopération franco-allemande qui ont sauvé des vies lors du Covid en mars 2020.
Pourtant, encore aujourd'hui, pour un Français sur deux, il y avait un sondage qui avait été publié qui a été réalisé par l'ambassade d'Allemagne en France. Pour un Français sur deux, les relations franco-allemandes se sont dégradées. Ils considèrent qu'aujourd'hui, ça va moins bien qu'il y a quelques années. Déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment vous le vivez, vous, dans vos fonctions? Est-ce que vous voyez ça comme une dégradation? Comment vous décririez l'état de ces relations franco-allemandes, je dirais, aujourd'hui?
Alors déjà, très très franchement, et en toute transparence, dégradation, non, il n'y a pas. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'un ami est quelqu'un qui vous connaît par cœur et qui vous aime quand même. J'ai appris récemment aussi, on a tous en tête cette photo à Verdun du chancelier Helmut Kohl avec François Mitterrand, eh bien, qui se donne la main. Eh bien, je me suis laissé dire que la veille au soir, voilà, ils ne s'entendaient pas du tout, ils s'étaient disputés sur plusieurs sujets. Voilà. Je pense que voilà, c'est une amitié avec ses qualités, avec aussi ses faiblesses mutuelles, mais c'est une amitié respectueuse. Et une construction d'une amitié se fait comme ça au jour le jour, avec nos différences, mais nos différences sont aussi une force. Aujourd'hui, clairement, je peux dire qu'au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, j'ai été élue le 7 novembre dernier coprésidente du bureau de cette Assemblée, eh bien, lors de la première séance plénière à Berlin, qui est pourtant une séance publique, nous nous sommes dit les choses. Nous nous sommes dit ce qui va, nous nous sommes dit aussi ce qui n'allait pas, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et l'objectif, ça n'est pas d'être d'accord sur tout, mais c'est d'essayer de se concerter et de trouver un consensus. Eh bien, le fait de se dire les choses nous permet aujourd'hui d'avancer sur des dossiers aussi complexes que ceux de l'énergie, que ceux de la défense. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos deux présidents de commission de la défense de l'Assemblée nationale et du Bundestag travaillent ensemble et que certainement le sujet de la défense sera l'un des thèmes de l'ordre du jour du prochain bureau de notre Assemblée au mois de mars.
Donc cette guerre a mis en évidence certaines divergences. Pour atténuer ces divergences, on parle souvent du fameux couple franco-allemand avec à sa tête le chef de l'État français et le chancelier ou la chancelière allemande. Quel peut être le rôle cette fois-ci des députés de votre assemblée parlementaire franco-allemand pour trouver des solutions et des convergences entre les deux pays?
Alors effectivement, vous parlez du couple franco-allemand, les Allemands eux parlent plutôt de moteur franco-allemand. Ce moteur a besoin de différents niveaux, j'ai envie de dire, pour le faire tourner. Il y a bien sûr le niveau du président de la République et du chancelier, il y a le niveau des gouvernements, il y a aussi le niveau citoyen.
Et le transfrontalier
qui est
aussi
très important. Le transfrontalier, et nous en dirons peut-être un petit mot tout à l'heure, parce qu'il est très important, parce que c'est là, j'ai envie de dire, qu'on est confronté au quotidien. Et que peut-être c'est là qu'il y a le plus d'irritants qui existent et qu'il faut qu'on arrive à gommer. Et puis il y a le travail des parlementaires qui est très important. Alors c'est vrai que notre assemblée parlementaire franco-allemande a vu le jour en 2019. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid. Notre souhait, c'est vraiment d'accélérer dans le travail de notre assemblée. Aujourd'hui, nos sujets, nous travaillons à travers des groupes de travail qui ont été mis en place. C'est l'avenir de l'Europe, à partir des conclusions du Forum sur l'avenir de l'Europe.
Ouais, est-ce qu'on a la conférence sur l'avenir
de l'Europe. La conférence sur l'avenir de l'Europe. Et puis, la souveraineté énergétique. Et puis, le troisième sujet que nous sommes en train déjà de traiter, c'est d'essayer d'harmoniser les directives européennes à l'échelle de nos deux pays. Mais justement, ce que nous faisons à l'échelle qui est la nôtre, donc de l'Assemblée parlementaire, c'est de... on discute et on essaye d'avancer ensemble. Et non seulement on discute et on essaye d'avancer ensemble, mais on travaille ensemble. Nos deux commissions de la Défense travaillent ensemble. Mon objectif, et j'ai pris mon bâton de pèlerin, c'est que demain... toutes nos commissions de l'Assemblée nationale et du Bundestag travaillent ensemble de manière régulière. Pas obligatoirement pour arriver toujours à des décisions qui soient totalement convergentes, mais au moins qu'on travaille dans le même sens et qu'on essaye de trouver un consensus. Alors, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, en tant que telle, se réunit au moins deux fois par an, une fois en France, une fois en Allemagne. Entre-temps, il y a des réunions de bureau. C'est vrai qu'elle est très formelle selon les textes. Et avec mon collègue Nils Schmitt, mon collègue allemand, nous voulons y apporter un petit peu plus de souplesse. C'est ce que nous allons faire, notamment à travers les sujets qui vont être abordés lors de nos réunions de bureau. Mais les sujets sont très nombreux. L'un des sujets que nous allons prendre en compte très vite, c'est celui de l'apprentissage de la langue. Du partenaire, qui est un sujet malheureusement, j'ai envie de dire compliqué, parce qu'on voit la baisse de l'apprentissage du français en Allemagne, la baisse de l'apprentissage de l'allemand en France, mais je vois aussi une vraie volonté gouvernementale d'améliorer cette situation, puisque lors du Conseil des ministres franco-allemand, il y a 3 semaines maintenant, nos 2 ministres de l'éducation français et allemand ont adopté une stratégie commune de l'apprentissage de la langue de l'autre, de la langue du voisin. Donc vous voyez qu'il y a, voilà, il y a des vrais sujets, une vraie volonté de convergence et de trouver un consensus sur des sujets pas forcément faciles.
Et si on reste sur cet aspect du bilinguisme ou de l'apprentissage de l'allemand, nous qui sommes dans une région frontalière, je reviendrai sur cette étude de l'ambassade d'Allemagne qui constatait qu'en fait, les Français avaient une très belle image de l'Allemagne, une très bonne image de l'Allemagne qui était même en hausse, et chez les jeunes encore plus. Pourtant, on a cette question de l'apprentissage de l'allemand qui, elle, est totalement en chute libre depuis, si on le fait sur 30 années, hein, depuis 1995, il y a quand même beaucoup moins de Français et d'Allemands qui étudient la langue du voisin. Déjà, vous, comment vous l'expliquez? Parce que c'est vrai que dans la région frontalière, même chez nous, ça baisse également. Sinon, quelles peuvent être les solutions, hormis l'impulsion politique? Comment on peut progresser sur ce sujet-là?
Alors l'explication est malheureusement simple et tout le monde la connaît. Aujourd'hui, le monde est, j'ai envie de dire, dominé par la langue anglaise, qui est aussi, il faut le dire, plus facile que l'allemand. Est plus facile que le français pour les Allemands. Et donc, les jeunes se précipitent sur l'apprentissage de l'anglais. Ce qui n'est pas forcément, à mon sens, une bonne idée, parce que moi qui, à l'époque, fais allemand en première langue, une fois qu'on s'est attaqué à une langue quand même plutôt compliquée, c'est beaucoup plus facile après d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol, voire d'autres langues. Donc voilà, c'est l'anglais. Je connais des entreprises allemandes implantées en Alsace qui jusqu'à présent recrutaient plutôt des personnes qui parlaient un petit peu allemand et qui maintenant me disent nous aussi on s'est mis à l'anglais dans nos entreprises allemandes ici en Alsace. Alors comment y remédier? Moi je crois beaucoup aux échanges et à la mobilité des jeunes. Ce qui n'est pas simple à mettre en œuvre. Hein. Lorsque j'étais présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, je me suis dit, on va initier des échanges entre des collèges, haut-rhinois en l'occurrence, et des collèges de l'autre côté du Rhin. Eh bien, les profs côté allemand m'ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas, parce que nos élèves, ils apprennent l'anglais et pas le français. Donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Mais je crois beaucoup à la mobilité des jeunes, je le redis. D'ailleurs, quand j'étais au gouvernement, j'avais initié et tout fait pour développer la mobilité européenne des jeunes, parce que quand on apprend à se connaître... on a envie d'apprendre à connaître la culture de l'autre et de pouvoir échanger dans sa langue. Et je pense que vraiment, c'est cela qu'il faut faire, développer la mobilité européenne des jeunes.
Et si on revient dans le traité de l'Élysée, c'est le cœur du traité de l'Élysée, c'est quand même la création de l'OFAGE qui, normalement, est censé. Non, il le fait.
Il le fait, mais c'est
vraiment l'objectif, c'est la mobilité, l'échange entre les jeunes.
Oui, je vais d'ailleurs rencontrer là dans les prochains jours les responsables de l'OFAGE pour voir comment on peut encore mieux travailler ensemble, Assemblée parlementaire franco-allemande et OFAGE, pour développer cette mobilité des jeunes. Vous savez aussi, quand j'étais ministre en charge de l'insertion, je me suis battue, j'ai envie vraiment battue, pour que l'apprentissage transfrontalier puisse se poursuivre entre notamment la France et l'Allemagne, mais pas seulement. Il faut bien se dire les choses aussi. Paris est loin du Rhin et Berlin est loin du Rhin aussi. Et donc il faut expliquer sans cesse l'importance de textes tels que celui de l'apprentissage transfrontalier et l'importance de ces relations qui existent ici entre l'Alsace et le Bade-Wurtemberg au quotidien. Si à l'époque on a pu en 24 heures déclencher des transferts de patients vers le Bade-Wurtemberg et puis ensuite vers la Suisse et d'autres pays, c'est du fait de ces relations personnelles qui existent entre nous.
Un des autres sujets actuels, c'est le développement de lignes ferroviaires transfrontalières. Que peut faire l'Assemblée parlementaire franco-allemande pour encourager, voire même débloquer certains projets ?
Bien sûr, je le vois ici à Colmar, puisque je suis colmarienne, on va facilement à Strasbourg, on va facilement à Mulhouse, pas forcément à Fribourg, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de liaison ferroviaire, quoi. Alors que Fribourg est à trois quarts d'heure de route de Colmar. Donc la liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg est un projet qui est inscrit au traité d'Aix-la-Chapelle. Et comme l'Assemblée parlementaire franco-allemande doit veiller à l'application du traité d'Aix-la-Chapelle, j'espère bien que nous arriverons à la réaliser. En tout cas, les signaux sont aujourd'hui plutôt verts, à savoir que les études avancent pour cette liaison ferroviaire, qui doit permettre d'une part aux jeunes, mais aussi aux salariés de se déplacer, et puis un certain nombre de territoires entre Colmar et le Rhin de se développer. Je pense à la magnifique ville de Neuf-Brisach avec ses remparts, qui est une ville qui ne demande qu'à avoir demain plus d'habitants. Ils ont un projet d'éco-quartier. Le jour où nous aurions cette liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg, ça va changer la vie. Ça n'est pas juste, j'ai envie de dire, une liaison entre Colmar et Fribourg, c'est aussi une liaison avec Breisach et avec les territoires entre Colmar et le Rhin.
On va conclure rapidement cette émission sur deux questions qui sont plus sur la question franco-allemande, mais qui vous verrez qu'il y a quand même un lien. Alors, nous sommes ici au bureau de votre permanence et on est donc dans la place du capitaine Dreyfus. Donc, il y a un sens. Vous avez rejoint le groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. On avait parlé de ce groupe d'études, notamment lorsque le Rassemblement national a souhaité présider un temps cette instance. Alors, déjà, en quoi consiste déjà cette instance et surtout, comment vous voyez cette problématique de l'antisémitisme ? Je mettais le capitaine Dreyfus, parce que ça a bien changé depuis, mais comment vous voyez cette thématique de lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui ?
Bon, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et lorsque j'étais présidente du conseil départemental du Rhin, j'avais mis en place toute une série d'actions contre l'antisémitisme, contre le racisme aussi, contre le sémitisme et contre le racisme, auprès des jeunes en particulier, mais pas seulement. À savoir que j'ai initié à l'époque, dans notre département, les veilleurs de mémoire qui veillent sur les cimetières juifs. Je rappelle qu'à l'époque aussi, et je touche du bois, pour l'instant c'est calme, il y avait beaucoup de profanation de cimetières juifs. D'où cette action qui prend d'ailleurs de l'ampleur encore aujourd'hui. J'ai aussi initié beaucoup d'actions contre le racisme en général et contre l'antisémitisme dans les collèges, parce que je pense que c'est là qu'il faut faire comprendre aux jeunes déjà qu'il y a des religions qui sont différentes, certes. Le problème, c'est que souvent, on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Et mon objectif, c'était d'apprendre ce que c'est la religion de l'autre pour ne plus en avoir peur et pour mieux l'accepter et pour mieux respecter l'autre. Alors aujourd'hui, je poursuis cet engagement au sein de ce groupe d'études parce que ce que j'ai fait au niveau local, eh bien, je souhaite pouvoir le porter également au niveau national à travers divers engagements, celui-ci, mais également dans le cadre de conférences et de colloques auxquels je participe. Je vais avoir l'occasion aussi très prochainement, avec d'autres élus, de participer à une convention d'élus en Israël pour encore approfondir mes connaissances sur le sujet.
Alors on ne peut pas se quitter sans aborder un sujet qui fait l'actualité, on va dire, en France, mais on pourra aussi faire le lien avec l'Allemagne aussi. C'est la réforme de notre système de retraite. On sent qu'aujourd'hui, cette réforme, elle fait débat, elle pose question. Quelle est, vous, votre position sur cette réforme ?
Alors très très clairement, j'estime qu'on a besoin de cette réforme des retraites. Si on ne la fait pas, demain, on ne pourra plus payer les retraites. Le vrai sujet est là. Pour être beaucoup sur le terrain, dans la circonscription, je crois qu'il y a, surtout trois sujets dans le cadre du débat qui posent question et qu'il faut, eh bien, dans cette semaine parlementaire qui nous reste sur le sujet des retraites, à débattre. Un, c'est le travail pénible et le travail long, hein, pour les personnes qui ont démarré le travail très jeune. Le deuxième sujet, c'est les personnes qui pensaient prendre leur retraite là d'ici quelques mois et qui voient du coup leur durée du travail rallongée. Et le troisième sujet, c'est le travail des femmes qui à mon sens, pas seulement là dans le cadre du travail du débat des retraites, n'a pas été suffisamment pris en compte depuis des années. Et je pense qu'après le débat des retraites, donc j'espère que le dossier des retraites va passer au Parlement. Je pense qu'après ce sujet-là, il va vraiment, vraiment falloir s'attaquer au sujet du travail en général, à savoir le travail des seniors, le travail pénible, le travail des femmes, pour que demain, comme c'est le cas en Allemagne aussi, où on travaille aujourd'hui jusqu'à 67 ans, eh bien là, ces questions de pénibilité soient mieux prises en compte, la question du travail des femmes soit mieux prise en compte.
Est-ce que c'est un sujet dont vos collègues allemands vous posent question ?
Alors, clairement, mes collègues allemands ne comprennent pas quand dans notre pays, les gens descendent dans la rue sur ce sujet-là, puisqu'en effet, ils sont déjà bien au-delà des 65 ans.
Alors, on a l'habitude de conclure cette émission par une rubrique qui s'appelle CatchGI, qui est une procédure parlementaire, mais du Parlement européen.
J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye. Catch the Eye. Catch the Eye. We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye. Pour vous, déjà, quel serait le plus grand succès de l'Union européenne ?
Le plus grand succès de l'Union européenne, c'est la paix.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que l'Union européenne n'a pas bien fait ou devrait bien mieux faire ?
Bon, les échecs, s'il y en a, mais il y a toujours des échecs et on peut toujours faire mieux, ce sont tous les irritants du quotidien, qui sont parfois de petites choses, mais qui ont beaucoup de sens. Je pense par exemple à la vignette critère. Qu'on a en France, eh bien, si on va en Allemagne, il faut la vignette verte allemande. Voilà. Ce sont des petits irritants qu'il faudrait qu'on arrive à régler et qui, à mon sens, ne sont pas compliqués à régler.
Et ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez aussi travailler au sein de votre instance.
Justement.
Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser un réseau social ? Et si oui, lequel vous préférez ?
Alors, j'en utilise beaucoup, essentiellement Twitter et Facebook.
Enfin, et pour terminer, mais cette fois-ci, si dans les derniers temps, vous avez lu un livre, vous avez vu une exposition que vous souhaitez partager avec nos auditeurs, ce serait laquelle ?
J'écoute beaucoup de musique et je me rends beaucoup au concert et à l'opéra. La lecture, c'est pour les vacances, un petit peu plus, et nous allons avoir une semaine de suspension parlementaire. J'ai quelques ouvrages en retard, mais je préférerais me concentrer sur la musique et sur Jean-Sébastien Bach.
Merci Madame Klinker de nous avoir reçus ici dans votre permanence à Colmar et de nous avoir éclairé sur les relations franco-allemandes et sur cette assemblée parlementaire franco-allemande. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne.